Bienvenue dans La Boucle est bouclée, le podcast d'INRAE. Du champ à l'assiette, du grain de sable à la planète, d'une goutte d'eau à l'océan, on suit le chemin de la recherche. Dans La Boucle est bouclée, on fait le tour de la question sans tourner en rond. Je suis Laure Caruso, scientifique et réalisatrice de podcasts.
Aussi des espèces qui sont assez fantastiques quelque part, de pouvoir réaliser des milliers de kilomètres pour effectuer leur cycle de vie.
La voix qu'on vient d'entendre, c'est Marie-Laure Acolas, chercheuse en biologie de la conservation des poissons migrateurs au centre INRAE Bordeaux. Et l'espèce fantastique dont elle parle, c'est les esturgeons. De son petit nom Acipenser surio, cette espèce d'esturgeon est le poisson le plus grand migrateur d'Europe de l'Ouest. Faut savoir que les esturgeons, ils ont plus de 200 millions d'années, contemporains des dinosaures donc. Mais ils sont aujourd'hui menacés. Et avant de vous dire pourquoi et comment on peut les sauver, petite fiche d'identité de l'individu. Mesurant en moyenne 1,70 m pour une trentaine de kilos, jusqu'à 400 kg et 6 mètres de long pour les plus belles bêtes, l'esturgeon a une espérance de vie proche de celle de l'homme. Il y en a même qui approchaient les 100 ans. Ils ont une maturité sexuelle assez tardive, entre 14 et 16 ans pour les femelles, et 10-12 ans chez les mâles. Un peu comme des ados, en fait. Contrairement à l'anguille ou au mulet porc, oui, c'est un poisson, l'esturgeon européen, comme le saumon, est une espèce anadrome, c'est-à-dire qu'il se reproduit en eau douce, dans les fleuves, et il va croître en estuaire et en mer, où il passe la majeure partie de sa vie, avant de revenir dans sa rivière de naissance pour se reproduire à nouveau. Et la boucle est bouclée! Si dans les siècles passés, on pouvait en voir de la mer Noire à la mer Baltique, aujourd'hui en France, les individus, oui, on dit individus, qu'on peut encore voir, empruntent l'estuaire de la Gironde pour aller se jeter dans l'océan.
Donc dans les grands fleuves d'Europe de l'Ouest, du Guadalquivir à l'Elbe, il y avait plusieurs populations fonctionnelles. Et la dernière population fonctionnelle, c'est celle de la Gironde, puisqu'on a observé une reproduction naturelle en 1994, mais plus depuis.
Au début du 19e siècle, on observe que cette espèce se fait de plus en plus rare, à tel point que des mesures pour éviter sa disparition ont été prises au milieu des années 80-90, date à laquelle a eu lieu la dernière reproduction naturelle dans le bassin versant Gironde-Garonne-Dordogne. Et c'est là que les scientifiques, les pêcheurs, les naturalistes, les acteurs de terrain interviennent.
Si les personnes qui étaient impliquées à ce moment-là n'avaient rien fait, on aurait sans doute assisté à la disparition de l'espèce.
Mais avant de vous raconter comment ils ont fait ça, petit tour des raisons de cette disparition. La surpêche. Si aujourd'hui elle est interdite, et les pêcheurs signalent leurs observations si un est pêché par hasard, l'esturgeon a longtemps été pêché non seulement pour ses œufs, j'y reviendrai plus tard, mais aussi pour être consommé. Ensuite, il y a l'accès aux zones de frayère. C'est là où ils se reproduisent. Ces endroits se trouvent en eau douce, dans des parties assez profondes, entre 5 et 10 mètres, avec des substrats de gravier et un fort courant. Le hic, c'est que l'accès à ces nids douillets est rendu difficile à cause de l'aménagement des fleuves et la mise en place de barrages très à l'aval des fleuves. Ces mêmes zones de frayère ont elles-mêmes été endommagées, en fait, à cause de l'extraction de sédiments, pour l'aménagement du territoire, par exemple. Les sédiments y font partie de l'habitat des esturgeons, mais aussi ceux de leur proie. Donc changer ces habitats, ça change aussi la dynamique de la nourricerie. Bon, en somme, les causes de sa disparition sont multiples, comme pour la majorité des migrateurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en protégeant cette espèce, comme on va le voir, on protège également d'autres espèces qui vivent dans le même milieu. On parle d'effet parapluie, puisqu'en fait, on participe aussi à la sauvegarde de l'ensemble de l'écosystème autour. Voilà, en fait, sans le savoir, Rihanna, elle parle aussi des esturgeons dans ses chansons. Bon alors, pour pas laisser disparaître ce poisson, les scientifiques ont entrepris en 1995 une mission de réintroduction de l'espèce. Comment ? Bah en les aidant à se reproduire. Alors, pas tout à fait comme on a fait pour le panda, c'est-à-dire de montrer des vidéos de pandas qui s'accouplent, quoique on n'a pas essayé avec les poissons. Mais dans le cas des esturgeons, ils leur ont fait croire qu'ils étaient dans leur milieu naturel. En pratique, les scientifiques ont récupéré les derniers esturgeons sauvages et les ont mis en captivité dans des bassins très profonds et dans des conditions contrôlées en eau et en température. Ensuite, ils ont suivi le schéma thermique qui est en mer, c'est-à-dire ils ont refroidi l'eau l'hiver et ils ont augmenté progressivement la température au printemps. Cette technique, ça permet donc de simuler la remontée en fleuve des esturgeons et d'arriver au printemps, prêt à s'accoupler. et avec un peu d'injection d'hormones, beaucoup d'amour en plus.
C'est à coudre.
Et un peu de sucre en poudre. Non.
Ah bon.
Les femelles relâchent les ovules, les mâles le sperme, et puis il y a une fécondation dans l'eau. Et après, ça fait des espèces de petites grappes d'œufs qui mettent quelques jours avant d'éclore.
Bon, ça s'est pas fait en un jour, mais ces accouplements ont fini par donner leurs fruits, ou plutôt leurs bébés. Et pas qu'un seul. C'est plus d'un million de juvéniles issus de ces reproductions artificielles qui ont été ensuite relâchés entre 2007 et 2015 dans leur milieu naturel. Et aujourd'hui, en 2022, les scientifiques d'INRAE guettent des signes de vie. Les juvéniles issus de la reproduction assistée sont aujourd'hui matures sexuellement, donc ils devraient pas tarder à se reproduire. Et comme on vous le disait tout à l'heure, la particularité de ces migrateurs anadromes, c'est qu'ils viennent se reproduire à leur rivière natale. Pourquoi ? Bah, en fait, d'un point de vue évolutif, les sites où ils sont nés doivent être considérés comme des safe places, donc favorables à la survie de l'espèce. Donc les scientifiques vont regarder sur les sites de frayères potentielles. Et pour ça, ils ont plusieurs méthodes de monitoring. D'abord, ils testent l'ADN environnemental, c'est-à-dire ils récoltent des échantillons d'eau au niveau des sites de frayères connus, pour voir s'il y a des traces de juvéniles. Il y a aussi les campagnes de monitoring dans l'estuaire.
Le monitoring dans l'estuaire, là par contre, on a des zones où on va chaluter. Donc on va chaluter 30 minutes sur différents rectangles dans une zone pour échantillonner de manière un petit peu stratifiée. Et là, on va regarder toutes les espèces qu'on rencontre, on va tout relâcher bien sûr. Et sur les esturgeons, on va regarder par exemple ce qu'ils ont mangé en faisant un petit lavage stomacal. On va prendre des morceaux de tissu pour... soit connaître leur âge directement, soit faire une analyse génétique pour essayer de retrouver leurs parents, donc leur stade de lâcher, distinguer dans le futur si c'est des individus issus de la captivité ou des individus sauvages.
Rien ne leur échappe. Et s'il y en a qui voulaient rester incognito, ça va être difficile. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand les scientifiques ont constitué le stock captif, ils ont donné des petits noms aux poissons. Paco, Francine, Jean-Michel, bon ça c'est moi qui l'ai rajouté. Mais aujourd'hui, comme ils sont plus nombreux, ils les ont remplacés par des numéros. Toujours pour assurer le suivi des individus, il y a des marques spécifiques qui sont posées lors du monitoring sur les chaluts. Comme ça, on peut connaître leur trajectoire et leurs préférences environnementales, comme la profondeur, la salinité ou la température que les esturgeons rencontrent. Aujourd'hui, c'est l'association Migado qui a pris le relais sur les reproductions assistées et qui continue ce travail de repeuplement à la station de Saint-Seurin-sur-l'Île. On vous met les infos en description. En parallèle, les équipes de Marie-Laure Acolas mènent d'autres recherches pour comprendre l'origine des facteurs de raréfaction. Ils étudient par exemple la qualité du bassin versant et les effets des contaminants sur d'autres espèces d'esturgeons, sans oublier les effets du changement climatique. Last but not least, je ne pouvais pas faire cet épisode sans vous parler du caviar, bien sûr. C'est ces petits œufs noirs qui sont consommés très cher pour leur qualité gustative.
Où sont les poulards ? J'ai faim !
Alors, en pratique, on prélève à un certain stade de maturité des grappes d'œufs sur les esturgeons femelles. Et si aujourd'hui, on a adapté les techniques pour que ce ne soit plus létal, c'est plutôt les esturgeons sibériens, qui sont matures plus tôt, qui en produisent. L'espèce d'esturgeon sur laquelle travaillent Marie-Laure Acolas et ses équipes sont, eux, uniquement dédiés au repeuplement. En parlant de repeuplement, il y a d'autres animaux qui ont aussi bénéficié d'un plan national d'action qui a permis la réintroduction de certaines espèces, comme le lynx dans les Vosges, par exemple, ou l'ours dans les Pyrénées, ou encore le renforcement de populations existantes comme le hamster géant en Alsace. Si de nombreuses espèces sont encore menacées aujourd'hui, le repeuplement de la biodiversité porte ses fruits, et on espère aussi avec les esturgeons. Retrouvez-nous sur vos applis de podcast préférés et sur le site d'INRAE. Est-ce que là on m'entend bien ? Au début du 19e siècle, on observe que cette espèce... Au début du 19e siècle, on est... non. Donc changer ses habitats, c'est aussi changer la dynamique de la nourserie. Ah, ma zette.